Les sirènes des ambulances, c'est ce que je ramène de mes nuits de garde.
Les sirènes, je ramène des sirènes de mes nuits, c'est ce que je... Je ramène des sirènes de mes nuits. Pourquoi employer plus de mots ? Raymond ramène des sirènes de ses nuits, c'est tout, on comprend.
Personne ne veut de ses nouvelles, alors ils se sont piégés. S'il refuse les coupes, il perd une chance d'être publié, on perd l'argent. Mais s'il cède, il va se sentir lâche.
Marianne.
Tu peux vouloir écrire et vouloir notre bébé.
Mais je ne pourrais pas choisir. Je serais forcé...
Pas forcé, non, tu n'auras pas de forcé.
Si j'étais contraint de choisir entre ma famille et l'écriture, je crois que je
choisirais... Tu peux avoir les deux.
Où en étais-je ? Ah oui, la fiction.
Je choisirais d'écrire.
La fiction, c'est le réel avec un pas de côté. La seule chose qui m'intéresse, c'est le réel. La famille, le travail, l'humiliation, la maladie, nos tentatives pour fuir tout cela et trois petites notes sifflées dans l'obscurité avant qu'elles nous engloutissent.
Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures quand je te fais un contrat ? Sois heureux, Raymond. Sois heureux de signer avec moi.
Ciseaux. Adaptation du roman de Stéphane Michaka par Marianick Bello. Deuxième et dernière partie.
Cher Douglas, s'il n'y avait pas le livre que tu m'as envoyé, ces 18 nouvelles réunies dans un recueil, je me sentirais au fond du trou. Il y a 10 ans de ma vie dans ce livre. Le tenir entre les mains, c'est avoir la preuve que ma vie n'est pas entièrement partie à volo. Toutes les heures, j'avale un demi-verre pour me sevrer. Demain, ça sera toutes les 2 heures, et ainsi de suite. J'ai appris ça au centre. Bourbon à petite dose et à heure fixe. Si on m'avait dit que je me saoulerais un jour en suivant le tic-tac d'une horloge, je ne m'y serais jamais mis. Toujours eu horreur de faire les choses sous contrainte. J'aurais voulu te parler des coupes en détail, discuter celle-ci ou celle-là. Mais mon état ne me permet pas de me concentrer longtemps. Et puis il y aurait trop à t'écrire. J'espère surtout être remis à temps pour le job que tu m'as dégoté. Mon premier boulot d'enseignant. Les cours débutent dans une semaine. C'est l'heure de ma biture. Et si entre deux verres, j'arrive à écrire une histoire, sois prêt à dégainer, Douglas, parce qu'on remet ça bientôt. Moi au fond du trou, toi du sommet de ton immeuble, une sacrée paire, si tu veux mon avis.
Je sais ce que tu traverses, Raymond. Même si tu ne me le disais pas, je le devinerais. C'est ta 8e cure en 3 ans, sans parler des séjours à l'hôpital. Je me réveille la nuit et je ne me rappelle plus ce qui est arrivé. J'ignore pourquoi notre maison a été saisie, pourquoi le courrier est si lent et pourquoi ces mots me semblent si peu capables de t'atteindre. Pourquoi sommes-nous si éloignés l'un de l'autre alors qu'il reste tellement d'amour ?
Ah, mon vieux, je compatis. Mais revenons à nos moutons. Une maison concurrente me fait du pied. Dans le cas où j'accepterais son offre, il me plairait que ce soit avec ton 2e recueil sous le bras, pour faire monter les enchères. Comme tu vois, nos sorts sont liés. Et cette fois, pas d'excuses. Tu me dis que Marianne et les gosses ne sont plus dans les parages, et je t'ai trouvé ce poste d'enseignant. Faut pas me lâcher, Ray. J'ai besoin de ce recueil. Et ne t'en fais pas, je musclerai tes nouvelles partout où il le faudra.
J'ai fait un rêve l'autre nuit. Je tenais une tirelire entre mes mains, je la soulevais près de mon oreille et je la secouais. Pas un tintement, pas le moindre bruit. Je regardais la tirelire, elle était fendillée, à tel point que je me demandais comment elle pouvait rester en un seul morceau. À cet instant, je me rends compte qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à notre maison, celle qu'on nous a prise. Mon rêve finit ainsi. Je soulève à nouveau la tirelire et je la colle contre mon oreille. Je perçois le sifflement d'une conque. le murmure enfoui de l'océan. Tout cela dans notre maison toute craquelée. Puis elle se brise en morceaux.
Mon Dieu, quelle soirée. C'est tous ces gens avec rien. Dans un quart d'heure, je rentre.
Voyons, sur une échelle de 1 à 10, vous pensez que vous allez aimer de combien?
Qu'est-ce que c'est?
Du punch avec un doigt de rhum.
Merci. Je reste à l'eau.
Oh, quelle déveine! Tout le monde reste à l'eau ici. Ou au scotch. Essayez quand même, c'est moi qui l'ai préparé.
Désolé, je viens d'arrêter de la boisson.
Mes deux ex-maris étaient alcooliques.
Vous êtes dangereuse, ma parole.
Oh, allez, il y a très peu d'alcool. Personne n'en prend, je vais croire un coup monté.
Si c'en est un, on ne m'a pas prévenu.
Donc, sur une échelle de 1 à 10, vous pensez que vous allez aimer de combien?
Pourquoi vous me demandez ça?
L'anticipation accroît le plaisir.
L'anticipation?
Accroît le plaisir. Première règle du psychomarketing.
C'est votre spécialité?
Non, c'est un boulot alimentaire. En vrai, je suis poétesse. Les gens se moquent de moi quand je dis ça. Pas vous, c'est curieux.
Et la deuxième règle?
Pardon?
Du psychomarketing.
J'ai dû l'oublier. Comme je vous le disais, c'est un job alimentaire, dans une grande surface. Je fais tester aux clients mon éventail de produits en leur demandant avant. Il faut
avant
toujours demander avant, avant qu'ils nous goûtent. Je leur dis, c'est chips au gorgonzola. C'est chips au paprika, c'est rondelles de saucisse, c'est gorgonzola.
D'accord, j'ai compris.
Etc, etc. Vous pensez que vous allez aimer de combien? Gna gna gna.
Et ça accroît le plaisir.
À tous les coups. Les gens se régalent, ou font semblant, pour que je leur lâche les baskets. Et vous voulez pas goûter mon punch?
5.
Pardon?
Je pense que je vais aimer à hauteur de 5.
C'est tout? Vous ne vous mouillez pas trop, dis donc. Vous ne goûtez pas?
Écoutez, c'est quoi votre prénom?
Joanne. Et vous?
Raymond.
Vous enseignez?
L'atelier d'écriture, module 6.
Et ça alors? Moi, c'est le module 7. On est voisins.
De ça?
Non. Juste dans l'intitulé.
Ah, oui.
Et vous écrivez quoi?
Les nouvelles.
Vous tremblez. Donnez-moi ce verre.
Vous vous intéressez aux nouvelles?
Oui, j'adore ça. Je lis celles de mes amis. Je leur donne mon opinion.
Et ils en tiennent compte?
À tous les coups. Je suis une excellente diagnosticienne.
Vous devriez porter une blouse blanche et un stéthoscope.
Oh allez, soyez pas sarcastiques.
Ils sont comment vos poèmes?
Au début, j'écrivais des choses courtes, dans le genre haïku. Étrangère, ici et ailleurs. Un paravent entre le monde et moi. Deux poivreaux pour époux.
Et ensuite?
C'est tout. Vous ne m'avez pas cru tout de même? Vous n'avez pas pris cela pour de la poésie?
Non.
Tant mieux. Encore que j'écrivais vraiment court à mes débuts. Vraiment très très court. J'ai besoin de fleurir maintenant. Besoin d'amplitude. Vous me suivez?
L'amplitude, ça me plaît.
À mesure que le temps passe, j'ai le sentiment d'avoir plus à dire. Et besoin de plus d'espace pour le dire.
La concision, c'est pour les novices.
Bien vrai. On ne peut pas exprimer toute la richesse de l'existence avec des phrases de 5 mots.
Mais surtout si elles n'ont pas de virgule.
Ça, ouais.
Pourtant, je connais un mot.
Tu trembles toujours? Tu as froid?
Non, je me sens bien. Je me sens de mieux en mieux.
Tu peux boire dans mon verre si tu veux.
Je connais un mot qui suffit à exprimer plein de choses.
Lequel?
Mamie Lapinatapé.
Mamie?
Ça vient de la terre de feu. Mamie Lapinatapé. Je crois que ça veut dire... Chacun regarde l'autre dans les yeux, en espérant qu'il va initier ce dont chacun a envie, mais que nul n'ose faire le premier.
Tu penses que tu vas aimer de combien sur une échelle de 1 à 10 ?
10. 10, sans hésiter.
Vous m'avez demandé ce que c'est que le minimalisme.
Oui.
Le crépitement d'une phrase, le coup de fouet d'une formule étonnamment concise, le vide est pourtant l'ombre de quelque chose. Certains ont fait l'éloge de l'ombre, je voudrais faire l'éloge du vide, sans dévoiler ce qu'il recèle. Une histoire qui, à peine née, meurt entre vos mains. Il sort quand votre article ?
Le mois prochain, en une du supplément week-end.
Très bien. Écoutez, je ne vous donne pas le téléphone de Raymond, il n'aime pas être dérangé, mais ne vous en faites pas pour le minimalisme, il vous dira merci. Raymond n'attend qu'une chose, être reconnu pour ce qu'il est.
La glu. Un petit ami m'appelait comme cela parce qu'il me trouvait collante. La glu, ça me plaît bien. J'ai largué le petit ami. J'ai gardé le surnom. Pour Raymond, je suis Joanne. Il ne sait pas ce qui l'attend. Un bonheur incessant.
Alors, cher Ray, ton livre sera publié le 20 juillet. Tu sais que j'attends tes corrections, je veux dire ta validation des miennes. Et tu seras gentil de t'activer. N'oublie pas que je dois me farcir une tripotée de romans d'ici le 20 juillet. Pauvre de moi. Les romans ne sont pas comme les nouvelles, ils ne se laissent pas facilement désosser. Quand je m'y mets, ils se transforment en épave. Tantôt c'est le moteur que j'enlève par mes gardes, tantôt le châssis et tantôt les quatre pneus que je croyais superflus. Tu vois le tableau. Depuis que j'édite des romans, j'ai l'impression d'habiter un cimetière de voitures.
Il me rend visite sans prévenir. Tu aurais pu appeler, je lui dis. Il ne répond pas.
Oui.
Il tournicote dans le salon. Fume toutes mes cigarettes. Je souris en voyant le foulard à son cou. Ray ne s'est jamais acheté de foulard. Il n'en a jamais porté. C'est le cadeau d'une femme. C'est du sérieux cette fois.
Tu portes un foulard maintenant ?
c'est un cadeau d'une admiratrice.
Je suis heureuse, Ray. Tellement heureuse que tu as arrêté de boire.
C'est pas facile. Un combat de tous les jours.
Je m'en doute. 20 ans d'alcoolisme.
Presque autant que notre mariage.
Tu avais besoin de me dire ça ?
Comment ?
Cette comparaison, elle rime à quoi ?
Je me faisais la remarque, c'est tout.
Il y a des choses plus positives à dire sur nos 20 ans de mariage.
Quoi ? On va se disputer ?
Je t'ai pas forcé à venir, hein.
Il fallait que je vienne. J'ai un truc à te demander.
Je m'en doute.
Comment va...
Edgar. Très bien. On est vraiment heureux.
Formidable.
Et toi ?
Bien. J'ai arrêté de boire.
Ben, je sais, tu viens de me le dire.
Tu m'en croyais capable ?
Quoi ?
Bah d'arrêter. Tu pensais que j'y arriverais ?
Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu essaies de prouver ?
Mais rien ! Rien, bon sang !
Mais tu oses dire... Tu laisses entendre que je ne te croyais pas capable d'arrêter ? Comme si le fait de rester avec moi t'avait poussé à boire ?
Ce n'est pas ce que j'ai
Tandis
dit.
Tandis que l'autre, là, ta Joanne...
J'ai mentionné son prénom ?
Non mais tout finit par se savoir. Son prénom ?
Tu en es recouvert. Tu le portes de la tête aux pieds. Rien qu'à te regarder, ça me transperce.
Oh, qu'est-ce que c'est que ce mélo? Je suis le seul à m'être mis avec quelqu'un? Il faut bien qu'on refasse notre vie. Il faut bien qu'on la refasse, chacun de notre côté.
Alors ça me...
Oh, ma Marianne
Mais pourquoi tu te mets à genoux? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais relève-toi.
Qu'est-ce que t'as?
Rien. Tu as une télé neuve?
Oui, elle est à lui.
Il passe quoi en ce moment?
Bon, rien, c'est les élections.
Tu veux une part de gâteau?
Il paraît que mes nouvelles ont un contenu politique.
Pas de gâteau alors.
J'en ai pas vraiment conscience, mais les universitaires le perçoivent. Rien ne leur échappe.
C'est une bonne chose.
Quoi?
D'avoir un contenu politique.
Ça dépend du contenu. Enfin, je veux dire de qui analyse le contenu.
Je sais ce que tu es venu me demander. Ça sert à rien. Enfin, tout cela ne sert à rien.
Comment?
Tu peux l'avoir. Tu n'as pas besoin de me le demander. Ah, c'est elle qui te l'a demandé.
Mais de quoi tu parles?
Ta poétesse. Tu sais ce que je me sens bête. Elle a réussi à me rendre bête à distance. Je vais le demander, moi.
Quoi?
Notre divorce.
Merci. Il faut que j'y aille.
Ouais.
Merci pour le soda.
Ouais, attends.
La nuit où il devait revenir de chez sa femme, je n'ai pas dormi. Je l'ai attendu. On ne vivait pas encore ensemble. Le ciel était rempli d'étoiles. Je me suis assise sur le balcon. J'essayais de reconnaître les oiseaux à leurs cris. J'avais peur que Raymond ne revienne pas, qu'il décide de rester là-bas. Je savais qu'il était allé demander le divorce. Je l'avais vu dans ses yeux. On ne pouvait avancer que s'il n'avait plus ce lien avec elle. On se l'était dit à mot couvert. Sa femme était présente dans chaque fibre de son corps. Je n'espérais pas l'en arracher, mais le divorce pouvait être un début. À 3 heures, il n'était toujours pas revenu. J'ai fait un vœu. Tant pis pour le divorce. Qu'il reste son mari, mais au moins qu'il revienne. Faites qu'on ne me le prenne pas. Aucune étoile filante. Anormal dans un ciel d'été. Depuis l'alcoolisme de mon père, la mort de mon frère, mes 2 divorces, tout est anormal. Raymond est entré dans ma vie comme une étoile filante. Je tremble de ne plus le voir. Après tant d'anomalies, ne plus le voir serait dans l'ordre des choses. Une étoile a rayé la nuit. J'ai entendu le brinque-ballement de sa guimbarde. Il a surgi du noir en grommelant. J'ai crevé un pneu à 20 km et tu parles d'une poisse. Le cric m'a lâché. Je ne lui ai pas laissé le temps d'en dire plus. Je lui ai sauté au cou et on a fait l'amour. Au matin, je lui ai préparé du café et je suis partie travailler. Il s'est mis devant sa machine à écrire. Peu de temps après, Raymond et moi, on a emménagé ensemble. On risquait moins de se perdre.
C'est sous mon nez que vous agitez vos courbes. Bien sûr que je sais lire. On me paie pour ça. Frais généraux, il y a écrit. C'est pas un de mes titres. Je ne vois pas ce que ça vient faire au milieu de mes titres. Écoutez, vos graphiques, je m'en moque. Je suis éditeur. Vous comprenez? Éditeur. C'est mon métier. Vous rêvez de titres à courbe exponentielle? Je rêve de livres qui puissent réduire le niveau de la bêtise. Je ne sais pas si on va pouvoir s'entendre. Vous sortez d'où, au juste? Laissez-moi deviner. La télé? Le cinéma?
Le soda?
Comment? Vous vendiez des canettes de soda et on vous a recruté dans l'édition ?
Oui, monsieur, tout à fait.
C'est pas de votre faute, alors. C'est de la faute de personne. Il me reste une minute ? Je vais vous dire ce que je pense. Un monde où des vendeurs de soda sont chargés de promouvoir les livres n'a rien de rassurant. Pour moi, mes enfants et les enfants de mes enfants, voilà ce que je pense. Moins d'une minute. La concision est l'essence de l'esprit.
C'était vers la fin mai. Dan m'a appelé pour me prévenir qu'il passait chez nous. On ne s'était pas parlé depuis des mois. On échangeait de nos nouvelles par les enfants. Il téléphonait pour savoir si on s'était remis ensemble. Mais avec Dan, c'était le silence radio. Je pensais à lui tous les jours. Et je suppose que je gardais une place dans ses pensées. En tout cas, je l'espérais. J'étais surprise qu'au téléphone, ils disent « chez nous ». Ils n'employaient pas ces mots quand on vivait ensemble. Ils disaient « le bastringue », parce que la maison était l'endroit où on buvait, où on faisait la fête, où les enfants se disputaient en s'envoyant leurs lampes de chevet à la figure. Un endroit bruyant, lumineux et désordonné, ouvert aux amis et à ceux des enfants. Jusqu'à ce que quelqu'un se blesse et qu'on appelle les urgences. Chez nous. Ces mots ne semblaient plus désigner que Dan et moi. Je sentais le souffle de Dan sur ma nuque, comme un courant d'air chaud filtrant sous la porte. Je m'interdisais de remuer, de faire le moindre geste. Je ne voulais pas le réveiller. Les minutes, les heures se sont écoulées. J'ai compté jusqu'à 100, puis à l'envers, sans arriver à m'endormir. Des phrases ont commencé à se former dans ma tête. Elles s'effritaient comme des châteaux de sable. Au bout de ce qui m'a paru une éternité, je me suis tourné brusquement, bien résolu à réveiller Dan pour qu'il arrête de me souffler dans le cou. Mais il n'était pas blotti contre moi. Il était assis sur la chaise en osier. J'ai écarté les mèches qui me retombaient sur les paupières. Quand mes yeux se sont faits à l'obscurité, j'ai vu Dan qui fixait le vide, effrayé, comme s'il venait d'apprendre que ses jours étaient comptés.
Quand mes yeux se sont faits à l'obscurité, j'ai vu Dan qui fixait le vide, effrayé, comme s'il venait d'apprendre que ses jours étaient comptés. J'ai tendu la main vers lui. Je suis là. Tu ne me vois pas, je suis là. Mon amour, je suis là. Mon amour, mon amour.
Je suis là, mon amour. Tu ne me vois pas, je suis là, mon amour.
Mon amour, je suis là.
Elle ne te plaît pas, cette phrase ?
Le troisième « je suis là », on peut le supprimer, non ? On a compris qu'elle est là, il n'y a pas besoin de l'écrire trois fois. Et tu sais quoi, j'ai presque envie de barrer mon amour.
Le barrer ?
Il parle rarement de son ex-femme. Si je veux en savoir plus, je me penche sur ses nouvelles. Ce n'est pas vraiment lui ni son ex-femme, mais les sentiments sont vrais. Il sonne trop juste pour être fabriqué. Je ne vois pas ce que ça vient faire là.
C'est ce qu'elle ressent.
Pour moi, elle n'est plus amoureuse. Elle veut sauver son mariage. Bon, elle s'accroche. Mais on ne peut pas parler d'amour, non ? Il y a des sentiments que je voudrais couper dans les nouvelles de Raymond. Des lambeaux d'amour que j'aimerais renvoyer dans le passé. Dans le néant. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Est-ce qu'il m'y autorisera ? Si la nouvelle se termine par ce mot...
Elle se termine par « je suis là ».
Elle est là, mais son amour, lui, ne l'est plus, enfui, envolé, fuite.
Fuite.
C'est le sujet de la nouvelle, non ?
Mais non, c'est plus compliqué. Pour moi, il reste une ambiguïté.
Oui, c'est toute la question.
Montre-moi les phrases où l'ambiguïté te pose un problème.
Bah, ouais. Depuis que je relis ces nouvelles, depuis que je les corrige, comme il me l'a demandé... J'ai l'impression de faire œuvre commune avec lui, de mêler ma voix à la sienne. Jamais je ne me suis sentie exister à ce point. Je recule sur ma chaise et je relis la nouvelle. Est-ce qu'il l'aime encore ? Je le regarde. Il ne feuillette plus la nouvelle. Il a aperçu dans notre courrier le pli envoyé par Douglas, celui que je ne voulais pas qu'il ouvre.
Raymond !
Il m'adresse un clin d'œil, soupèse l'enveloppe et en sort le manuscrit. Je pousse un soupir. Il écarquille les yeux en voyant les dégâts.
Je ne peux pas le laisser faire. Juillet, 7h du matin. Très cher Douglas, il faut que tu me sortes... que je me sorte de là. Jamais les choses ne m'ont paru aussi claires, même si je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai relu le manuscrit, regardé tes changements, tes amputations, tes... Non, il appelle ça des coupes. Écrire juste tes coupes, pour ne pas le contrarier. J'ai relu toutes les nouvelles, comparé les deux versions, la tienne et la mienne. Je ne veux pas que mes nouvelles soient publiées sous cette forme. C'est une question de vie ou de mort, tu comprends? Si une seule d'entre elles était publiée dans ta version, je crois que je serais incapable d'écrire à nouveau. Voilà que je me remets à trembler. Douglas, tu dois comprendre. J'ai réchappé de la tombe. L'alcool m'a mis un pied dedans, mais ces nouvelles ont empêché que j'y reste. Elles sont la preuve que j'ai survécu. Tu comprends? Non, pas de majuscule. Ça fait typo Zaboa. Si tu pouvais publier mes histoires telles que je les ai écrites, les améliorer sans les changer de A à Z, si tu pouvais te contenter de ça. Dieu Tout-Puissant, sors-moi de là. PS, tu m'as bien compris, n'est-ce pas? Je te demande d'arrêter la fabrication du recueil. J'espère que tu me pardonneras.
Ne pas être trop proche de ces auteurs, sinon ils vous le font payer. Ils vous entraînent dans des considérations qui ne sont pas, ne doivent pas être les vôtres. Raymond ne peut à lui seul interrompre un processus dans lequel j'ai mis tout mon poids, toute ma réputation, mon sang, ma sueur. Son recueil doit paraître tel que je l'ai remanié, avec mes coupes, qu'il le veuille ou non. Quant à sa lettre, la longue supplique de Raymond... J'allais la déchirer, mais je me suis ravisé. Il y a un marché pour les lettres d'écrivains, même quand elles sont mal écrites. Son deuxième recueil est paru le 20 juillet, comme prévu. Jamais, pas même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé un succès de cette ampleur. Raymond est lancé. Il est en orbite, il ne redescendra plus. Parfois je trouve mon pouvoir effrayant, oui. Parfois, je ne me l'explique pas moi-même. Raymond ne devrait plus tarder. Depuis qu'il a cessé de boire, il se pique d'être ponctuel. Ça tombe bien, l'heure est venue de renégocier. Tandis qu'on vend les droits de ses nouvelles à la moitié de la planète, j'ai fait réécrire le pacte qui nous lie et doubler son avaloir. Je ne suis pas fou. Je ne vais pas scier la branche sur laquelle...
Raymond, je t'ai attendu.
J'ai croisé André dans le hall.
Ce petit con?
Je l'aime bien, moi.
Tu connais pas André? C'est un de ces jeunes éditeurs dont les dents raillent le parquet. Mais au premier obstacle, il ira pleurer dans les jupes de sa secrétaire.
Ah, t'as plus ta rosace?
Je l'ai vendu.
Un bon prix.
Tu me croiras si tu veux, mais elle valait pas un clou.
T'aurais dû me le dire. Johan et moi, on te l'aurait racheté. Dans mon bureau, la fenêtre est orientée plein sud. Je te l'aurais reprise, vitrail.
C'est vrai que tu es riche, maintenant.
On peut pas dire ça.
Ou en passe de le devenir.
Ma famille... Enfin... Mon ex-famille me saigne à blanc.
Plus pour longtemps.
Qu'est-ce que c'est?
Le contrat pour ton troisième recueil.
J'ai signé avec André.
Tu écris ton nom. Je paraphe pour toi.
André est mon nouvel éditeur.
Tu sais ce qu'on dit de moi ici? On dit que je suis parano.
Douglas.
Paranoïaque, ouais. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que j'ai un ami en face de moi ou bien un ennemi? La trahison, Raymond, la trahison est ce que je déteste le plus.
Je ne t'ai pas trahi. J'avais l'intention de changer...
Tu vois ce contrat? Regarde ce que j'en fais.
Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Pose tes ciseaux, Douglas.
C'est une preuve de confiance, Ray. Entre nous, le lien est plus solide qu'un contrat.
Je ne veux plus que tu me coupes.
Écoute, je vois que t'es dans tous tes états. Sincèrement, tu devrais t'asseoir, prendre un calmant et réfléchir.
Je ne veux plus que tu me coupes.
Tu sais qu'ils veulent me débarquer.
Tu plaisantes.
Non, non, ils cherchent à me virer. Ma place ne tient qu'à un fil. Si ton recueil n'avait pas été un succès, ils m'auraient éjecté depuis longtemps.
Heureusement, ils ne l'ont pas fait.
Foutaise. T'as attendu que j'ai le dos tourné pour signer avec un concurrent.
Je ne change pas de maison, juste d'éditeur.
Tu as attendu que je sois mort.
Je sais ce que je te dois.
Tu ne me dois rien, juste le minimalisme.
Comment ?
J'ai soufflé ce mot à la presse. Inventer une école.
Je suis tout sauf un minimaliste.
Et en trahison, tu es de quelle école en trahison ?
Va te faire foutre, Douglas !
Tu es foutu, Ray ! Tu es mort ! Tu es mort, tu m'entends ? À compter d'aujourd'hui, tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort.
Alors, vous fêtez les 3 ans de la petite ? 3 ans, je n'en reviens pas. Oh, ne dis pas jeune. Je ne suis pas une jeune grand-mère. Je me sens vieille. Encore plus depuis que... Non, je ne lui ai pas parlé depuis. Il était à l'étranger. Il y est toujours, je crois. Avec cette salope. Oui, je sais qu'ils vivent ensemble depuis 10 ans. Mais quand même, j'ai le droit de ne pas m'y faire. Tu sais que je lui ai parlé il y a 2 mois. J'ai eu le malheur de tomber sur elle. J'appelle pour parler à Raymond et c'est elle qui décroche. Bref, je tombe sur cette salope. J'essaie de rester polie, de ne pas grincer les dents. Mais au bout d'un moment, je n'y tiens plus. Je lui dis, je m'étonne que Ray n'ait pas envie de voir plus souvent sa famille. En insistant sur plus souvent, genre, c'est qui la sorcière ? Tu sais ce qu'elle me répond ? Mais sans blague, tu sais ce qu'elle me répond ? Ray doit laisser derrière lui les éléments de sa vie d'avant. C'est la condition pour qu'il puisse rester sobre. Elle ose me dire ça. Non mais dis donc, je lui fais. C'est moi que tu traites d'éléments ? Je m'appelle Marianne, je m'appelle pas gin, scotch ou vodka. Et je lui raccroche au nez. Mais elle avait raccroché avant. J'aime cet endroit. Tout est si calme ici. Je t'ai dit que le marronnier a grandi. Il faut que tu viennes avec la petite. Je vais installer une balançoire. Vous pourriez tous venir. Léo et Grete, toi et Chris, tous mes petits-enfants. 3 générations autour du marronnier. Je me sens un peu seule, à vrai dire. Je lis les nouvelles de Ray. Et je me rends compte qu'il n'a jamais cessé de parler de nous. Il rouvre nos blessures. Il les exhibe. Et le monde entier applaudit. On appelle cela de la fiction, mais on oublie qu'il y a des gens derrière. On oublie les éléments de la fiction. Non, je ne m'en suis pas sortie. C'est mon succès aussi. C'est le nôtre, tu sais. Le succès de ton père, c'est le nôtre. Même si on ne verra jamais l'argent.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Je savais pas que tu lisais ces nouvelles.
Mais pourquoi pas ? Elles sont dans notre bibliothèque.
J'écris une histoire qui se passe après ma mort. C'est une veillée funèbre. Des amis se rassemblent après le décès d'un proche et se remémorent un tas de choses sur son compte. Au début, cela part d'un bon sentiment. Mais très vite, ça dégénère.
J'ai pensé à Max toute la matinée.
Le type mort pourrait être moi.
Où est Gottfried ?
Il n'est pas moi, bien sûr. Mais il pourrait l'être.
Je t'ai pas raconté ce matin ?
Je prends un plaisir étrange à raconter cette histoire. Je l'ai commencée et je ne peux plus m'arrêter. Elle deviendra peut-être un roman. J'ai écrit 72 nouvelles. 72 petites inspirations avant de trouver mon souffle. Qui dit mieux ? Cette histoire, je ne veux pas qu'on la coupe. Je ne laisserai personne y toucher. Je viens de finir une nouvelle sur les dernières heures de Tchekhov. Joanne est en train de la relire. Mais cette histoire qui débute après ma mort, je ne vais pas la lui montrer. Ça la rendrait trop triste. Ni relecture, ni correction. J'espère juste pouvoir la terminer. Un pari, en quelque sorte. Tant que j'écris, je reste en vie. Ray.
Jamais cru que cela pourrait être si court. J'en ai eu le pressentiment, c'est vrai. J'ai même voulu en finir, et plus d'une fois. Mais je remettais ça au lendemain. Comme avec la boisson. Pendant 10, 15 ans, je me disais, j'arrête. Je m'exhortais. Tu entends ? C'est le dernier. Après celui-ci, tu arrêtes. Je m'en versais un autre en pensant, demain, j'arrête. Je me persuadais que chaque verre était le dernier. Mais il y avait toujours un lendemain. La vie recommençait. On vient de me dire qu'elle ne recommencera plus. Parfois, quand la peur desserre son étreinte, des pensées curieuses remontent en moi. Comme des bulles. Celle-ci, par exemple. Heureusement que j'écris des nouvelles. Si c'était des romans, j'aurais l'impression d'être interrompu au milieu. J'ai toujours eu envie d'écrire un roman. Mais l'alcool faisait obstacle. Je ne pouvais écrire que des choses courtes. Pourtant, je ne veux pas renoncer à ce roman. J'ai envie de m'y mettre, de ne pas me laisser faire. Une façon de protester, même si je dois mourir demain. S'atteler à un roman quand on est en fin de course, en écrire la première phrase le jour où votre arrêt de mort est prononcé, et les bulles grossissent. Elles deviennent de l'espoir.
Pardon. 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 Merci. Merci à tous, collègues, amis, ennemis. Vous êtes venus nombreux. Et il me plaît, oui, il me plaît d'imaginer que vous êtes ici pour moi. Je suis l'attraction de la soirée, pas vrai? On m'offre ce trophée en forme de lance ou de plumeau. On me remet ce machin pour l'ensemble de ma carrière, comme si elle était finie. Cela me va droit au cœur. Votre lance me va droit au cœur, sans doute. Pardon. Pardon. Je tiens plus debout. Désolé de vous décevoir, ma carrière n'est pas terminée. Je plie, mais ne romps pas. Le nombre de fois où on m'a pressé de partir, chaque fois j'ai rebondi. J'ai pris mes auteurs et je les ai emmenés avec moi. Et qu'un seul d'entre vous me dise s'il s'en est mordu les doigts. Hein, Richard, t'as toutes les raisons de me remercier. Nicole, on aurait pu faire de grandes choses ensemble, derrière en faire de toutes petites chez un concurrent. Pardonne ma franchise. Puisque l'heure est à la sincérité, puisque je ne me sens plus lié à la tentaculaire organisation qui m'assurait chichement les moyens de ma survie, puisque la maison brûle et que les livres partent en fumée, hein, Paul ?
Où est-ce que j'en étais, oui. Oui, la franchise. La franchise exige que je révèle dans quelles circonstances un écrivain comme Raymond... Tu es là, Ray? T'es-tu joint à cette assemblée pétillante, cravatée et comique? J'apprécierais que tu nous dises comment j'ai réécrit tes nouvelles. Avec quel art consommé. Dis-leur que tu es ma créature. À l'heure où la maison brûle, où les livres s'éventent comme du soda, dévoile-nous comment on bâtit une œuvre. Voilà le seul trophée que j'accepte d'emporter, celui du plus grand ventriloque littéraire de sa génération. Quant à votre lance à deux plumes, je vous la laisse. Bien assez de trucs à astiquer chez moi.
C'est bien. C'est bien,
merci.
Merci.
Ça marche? Ah oui, vous m'entendez?
J'étais comment? J'ai parlé assez fort? Non, mieux, non mieux. J'ai craint un moment qui coupe le micro. Réservez-moi de la vodka. Non, attendez, ma flasque. Prenez-la dans ma poche. Non, pas celle-là, c'est de l'huile à squam. À Squam, putain, personne parle ma langue ici. Personne n'est équipé pour me comprendre. Elle est mignonne, votre jupe, là. On dit fondu. C'est quoi le mot, le mot précis? C'est décinglé, je dirais, non? Quoi? Hein? Comment vous dites? Quoi? Vous parlez de Raymond? Vous vous foutez de ma gueule? C'est de Raymond que vous parlez? Oh merde.
Ils sont à quoi ces biscuits?
Citron et graines de pavot.
Ray me disait que tu es une excellente cuisinière.
Tu n'es pas venue à son enterrement?
C'est un reproche?
Non, un constat.
Alors comme ça, il t'a épousé, juste avant?
Avant quoi?
Qu'il ne soit trop tard.
Qu'est-ce que tu insinues, Douglas?
Mais rien! Tu es sa dernière épouse, pas de mal à cela. Et maintenant, tu es son exécutrice testamentaire.
Je déteste ce mot.
Lequel?
Exécutrice.
Tu aimes le pouvoir.
J'accomplis sa volonté.
Que tu sembles être la seule à connaître.
C'est pour me dire cela que tu as fait un aussi long voyage?
Je suis venu dissiper un malentendu. S'il te plaît, Johan, je voudrais que tu cesses de dire à qui veut l'entendre que j'ai charcuté ces nouvelles. Ce n'est pas ce que j'ai fait.
Non, à t'en croire, tu les aurais écrites.
Améliorées.
Je vois les choses différemment. Je vais republier ces nouvelles.
Quoi?
Celles d'avant le charcutage. Je vais toutes les publier.
Tu es folle?
Je suis l'exécutrice.
Une décision calamiteuse.
Les gens jugeront d'eux-mêmes. Ils pourront comparer les versions.
Tu n'as pas ces versions. Il ne reste rien de ce qu'il a écrit.
Bien sûr que si. Tu as vendu tes archives à deux universités.
Les manuscrits sont illisibles. Tout est barré de noir.
J'ai recruté des spécialistes. On va tout déchiffrer.
Tu veux défaire mon œuvre?
Tu as charcuté Raymond. Voilà ton œuvre. Je crois qu'on a fait le tour de la question.
Permets-moi de soulever un point, Johan. Si les nouvelles d'avant le charcutage, comme tu l'appelles, se révélaient décevantes, si les lecteurs, après avoir lu ma version et la sienne, après les avoir comparées, en arrivaient à la conclusion que je les ai rendues meilleures, que je les ai transformées en chefs-d'œuvre, ce qu'elles n'étaient pas, si le monde entier se met à penser cela, qu'est-ce qu'il restera de Raymond?
Je sais ce que je fais.
Dans ce cas... Mais ne dis pas charcutage. Ne dis pas que j'ai charcuté ces histoires. Je l'aimais trop pour lui faire ça.
Mmh.
plus d'un an a passé. Et je ne me suis pas remise à vivre. Chaque jour, je retrouve des nouvelles dans ses papiers. Comme s'il était là, en train d'écrire. Bien sûr, je dois prendre des décisions. Les prendre seule. Cette histoire, par exemple. Elle pourrait être le premier chapitre d'un roman. Sauf si j'enlève ces quelques pages. Si je la coupe. Si je l'interromps à cet endroit, elle devient une nouvelle. Tu en penses quoi, Ray ? J'ai l'impression d'être ce torero qu'on a vu au Mexique. Tu t'en souviens ? Au moment de l'estocade, tu n'as pas voulu regarder. Tu as trop de cœur, j'ai dit pour te taquiner. La foule a hurlé, ta main couvrait tes paupières. Moi, j'avais les yeux grands ouverts. La boisson qui a eu raison de lui.
Et voilà.
Waouh. Tu veux nous saouler ?
En hommage à Max ?
Si on les boit pas avec Iris et toi, vous allez mal finir.
On n'est pas si déprimés.
L'hommage à Max consisterait plutôt à pas boire.
Je l'ai jamais vu boire.
C'est vrai, Max a arrêté avant que je te rencontre.
Il buvait comme un trou.
Disons qu'il avait du potentiel.
C'est une chose pour laquelle on l'apprécie, c'est que rien ne lui monte à la tête.
C'était la phrase qu'on disait tout le temps sur lui.
S'il y a une chose pour laquelle on l'apprécie.
Et sa façon de rire de rien.
Ses blagues de potage.
Même sa bouille, là, comme celle d'un môme. C'était impossible de ne pas lui pardonner.
Et il en avait des choses à se faire pardonner. À commencer par aujourd'hui.
Quoi, aujourd'hui ? Il est mort.
Bah justement, merde, quoi. Mourir à 50 ans ? Oh, quel con !
50 ans. Tu parles d'une blague ? Le con. Il doit bien se marrer là où il est.
Je veux bien, s'il te plaît.
Max avait tellement de potentiel qu'il a failli en crever.
C'était il y a 10 ans. Les médecins lui ont dit que s'il s'arrêtait pas de boire, il signait son arrêt de mort.
Sans blague.
Tu savais pas ?
Tu crois quoi ? Que j'allais lui dire : oui, chérie, avant toi, j'ai pochetronné avec Max, on a fini au poste plus d'une nuit, et quand on ne se saoulait pas entre la bringue et la java, c'est con.
Arrête, arrête, ça va, on veut pas savoir.
N'empêche que ce qui compte dans ma vie aujourd'hui, c'est Mélodie et Lucie. Voilà. Voilà, et paix à son âme.
Il avait pas l'air, votre Max. Mais il s'accrochait à son bout d'existence. Pas vrai ? Il mordait dans sa petite vie comme dans un os, n'est-ce pas ?
C'est pas très charitable, Vic, de parler comme ça d'un mort.
Tu sais bien qu'il aime pas qu'on l'appelle Vic.
Max, Max, Max.
Hein, Iris ?
Quoi ?
T'es saoul ?
Mais non.
Ah, t'es vraiment con. Il a jamais rien eu contre toi.
Pourquoi n'était-il pas jaloux de moi ? Parce qu'il avait aucune raison de l'être. Voilà pourquoi.
Oh ! Allez, allez, on se dispute pas.
Est-ce que tu peux être con ? Mais franchement, mais qu'est-ce que tu peux être con ?
Je m'appelle Victor.
Ah, mais est-ce que j'ai dit Vic, peut-être ?
Victor.
Chérie, tu veux bien aller nous chercher une carafe ? Une carafe avec de l'eau glacée.
C'est marrant, mais quand tu parles, t'as une bouche vraiment stupide.
Où est Gottfried ? Iris ?
Je t'ai pas raconté ce matin ? Gottfried s'est envolé.
Envolé ?
Le piaf s'appelle Gottfried.
C'est un rossignol.
C'est hilarant.
Je trouve pas.
Hilarant.
Iris, me dis pas que t'as perdu Gottfried.
C'est la faute de Max.
Ah !
La faute d'un mort ?
Sacré Max.
J'ai pensé à Max toute la matinée.
Gottfried ! Où es-tu ?
Le rapport avec Gottfried ?
Gottfried !
Laisse-la s'expliquer.
Voilà. Les mecs se liquent contre les femmes.
Ça n'a rien à voir.
La ferme, Vic. Te laisse pas faire, Iris.
Quand j'ai ouvert la cage pour nourrir Gottfried, il était figé sur son trapèze. À tel point que je me suis demandé s'il était pas mort. J'ai tapoté la cage, donné des pichenettes dessus.
Des pichenettes ?
ces gonzesses.
Te laisse pas faire, Irisette.
Des pichenettes, des petites tapes contre les barreaux pour le réveiller.
Mais il ne dormait pas, Gottfried dort jamais.
Gottfried attendait son heure.
Eh ben, ça l'a pas fait bouger d'un iota. J'ai pensé que les graines allaient le réveiller. J'ai pris le baquet, je l'ai secoué devant la porte ouverte.
La porte ouverte?
Je devais être en train de penser à Max. Oui, je crois bien. Je pensais à son poème sur un rossignol. Ou un rouge-gorge, je sais plus. C'est à ce moment que Gottfried s'est envolé.
Mais il doit être quelque part. Il doit être parmi nous.
Reviens, Gottfried.
Tu le retrouveras jamais.
Le rossignol de ma mère.
Rien n'est grave, mon amour.
Remarque de gonzesse.
T'as jamais eu de respect pour ma mère. Maintenant qu'elle est morte, tu veux te débarrasser de ses affaires. Liquider maman.
Fred, ça suffit. Ta bouche est stupide.
Quoi?
Ta bouche.
Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès. Pour le piaf. Ouais, je pense qu'elle a voulu le lâcher dans la nature.
Oh, Victor!
Bien manigancé. Et Max pour complice. Ça m'étonne pas.
Je croyais que vous étiez amis.
Max était mon ami, mais c'est aussi un salopard de première.
Bien dit!
Mais tais-toi! Oh. Lâche-moi. Non, tu... oh.
Qu'il était fier de l'avoir pour ami. Un écrivain qui nous mettait dans ses histoires. Tu parles. Fier qu'il se fout de notre gueule, ouais.
Il s'est jamais foutu de ta gueule.
Allez, allez, c'est pas moi, peut-être, le mari trompé dans Devine qui vient nous voir.
Mais non, c'est...
Exact. Le mari trompé dans Devine qui vient nous voir, j'ai l'honneur d'affirmer que c'est moi. Tu sais.
Ah, ah. Allez, qu'est-ce qui
est raté? Saleté de moustique.
Je savais pas que tu lisais ces nouvelles.
Pourquoi pas? Elles sont dans notre bibliothèque.
Ma bibliothèque. Toi, tu lis que des magazines de golf.
Bref, les pièces à conviction sont dans notre salon.
Les livres de Max.
Fred, ça suffit.
Non, attends, c'est trop drôle. Victor, qui ne lit jamais de bouquins, s'est tapé tout ceux de Max.
Ça suffit.
Je m'intéresse à la littérature quand on y parle de ma femme.
Je ne suis pas dans Devine qui vient nous voir, c'est Iris qui s'y trouve.
Ah, je me disais aussi, la fille est habillée comme Iris. Avec ses bottes montantes et ses bracelets en bakélite.
Ne vous y fiez pas, c'est un leurre. La salope dans Devine qui vient nous voir...
Mais je rêve. On se dispute pour savoir qui est dans la nouvelle de Max.
Bien obligé. Il avait aucune imagination.
Il se servait de nous.
Oh, allez, vous êtes ridicules tous les deux.
C'est de la pure jalousie. Vous auriez aimé avoir le talent de Max. Il s'imprégnait de ses amis, c'est tout.
Oh. Il s'imprégnait de ses amis, mais surtout de la bibine.
Je croyais qu'on était là pour lui rendre hommage.
Tu es là pour lui rendre hommage. Si ça tenait qu'à moi...
Très bien, eh bien, réglons nos comptes une bonne fois pour toutes.
Pourquoi je rendrais hommage au type qui s'est tapé ma femme?
Je n'ai jamais...
J'en ai ras-le-bol.
Tu bouges pas.
On va tout savoir. C'est la grande nuit.
Tais-toi, Victor, tu es bourré et lâche-moi.
Tu sors pas avant d'avoir dit qui est le père des jumelles. Maintenant... Les jumelles... Elles sont de moi ou d'un autre?
Mais qu'est-ce qui te fait croire?
Leurs yeux.
Tout ça parce qu'elles n'ont pas tes yeux?
Les yeux de Mélodie et Lucie sont bleus à l'intérieur et gris à l'extérieur.
Elles ont les yeux de ma mère, tu le sais bien?
Max avait ces yeux-là.
Non.
Comment ça, non?
Tu devrais le savoir puisque tu lui as fait des lunettes. Les yeux de Max étaient gris à l'intérieur. Tiens, regarde sa photo au dos des livres.
Elle en noir et blanc.
Bon sang, Victor! T'as qu'à faire un test de paternité.
Je voudrais te faire confiance.
Tu peux.
Bien.
Il pouvait pas bander.
Quoi?
Il était trop saoul. Je lui ai rappelé quand il a prétendu être le père. Mais il avait trop d'orgueil.
Tant mieux, alors. Tant mieux.
Oh, vous avez vu ce qu'on vient de descendre? Oh. Non, mais vous avez vu ça?
Oh, dis donc.
On est en train de se saouler à mort.
On va bientôt rejoindre Max.
Sauf que la boisson qui a eu raison de Max, c'est pas le vin ou le whisky. Ça, non. La boisson qui a eu raison de lui... C'est l'eau.
Quoi?
Vous vous êtes jamais fait la remarque? Max boit depuis qu'il a 15 ans. Depuis qu'il est allé pêcher avec un thermos de whisky. Il boit en cachette de ses parents, il boit en cachette de ses amis, et il boit en cachette des médecins dans les hôpitaux où il est en cure. Pendant 35 ans, il boit. Et quand, miracle, il arrête l'alcool et se met à l'eau, il se passe quoi? Eh ben, il meurt.
Alors ça...
Il boit comme un trou et quand il se met à l'eau, il clame. Il casse sa pipe.
Il casse sa pipe. Il casse sa pipe. Il casse sa pipe. Il est temps de retourner dans le salon.
Trop de bouteilles.
C'est étrange ici, non? Cette véranda.
Alors comme ça, il était alcoolique?
Oh, une musique, là.
Je le savais anxieux, mais je pensais pas.
Un alcoolique et un anxieux. Il craignait de devenir aveugle.
Non,
il prend absurde.
Je m'occupe des verres.
Donc, un feu de...
T'as vu?
Oh, ça porte chance.
Il y a déjà plus un centimètre de lime sur le plateau.
T'as indiqué c'est un verre encore. Alors, pourquoi tu souris?
Comme ça.
Max était aveugle sur les choses essentielles de sa vie, mais il risquait pas de perdre la vue.
Je suis désolée. C'est pas grave. Ça va, tu t'es pas fait mal?
Non, mais je veux dire... Je vais nous faire à manger.
Ok. Je vous rejoins. Alors, Max, ça t'a plu? Tu te marres, hein? Je me demande si tu l'aurais aimé, l'anecdote sur la boisson qui a eu raison de toi. Tu l'aurais raconté comment? Avec plus de cruauté, sans doute. Qui s'imprégnera de nous, désormais? Gottfried?
Iris!
Gottfried?
Iris!
Iris?
Gottfried!
Iris!
Oh, Gottfried! Allez, va-t'en, Gottfried!
Iris!
Ne retourne pas dans ta cage! Je me suis penchée vers l'oiseau.
Iris!
Iris!
Il a sautillé à l'écart de la véranda.
Iris!
Tu es libre, maintenant.
Iris!
Tu es libre.
Iris!
Il est entré dans l'ombre. Je ne pouvais plus le voir.
Iris!
J'ai hésité, attendu.
Iris!
Puis j'ai rejoint les autres dans la maison. C'était Ciseaux. Adaptation du roman de Stéphane Michaka par Marianic Bello. Dernière partie avec Alain Fromager, Raymond, Claude Perron, Marianne, Vincent Schmitt, Douglas, Léonie Pinjot, Joanne, avec Rebecca Stella, Catherine Tartarin, Bernard Bouillon, Jean-Paul Borde et Julien Aluguette, Michel Baladi, Clémentine Bernard, Sophie Bezard, Rosa Burstein, Françoise Cousin, Sophie Dole, Grégory Dutreil, Nathalie Canoui, Étienne Launay. Bruitage, Sophie Bissante. Équipe de réalisation, Manuel Couturier, Jean-Baptiste Etcheparebord, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Ciseaux de Stéphane Michaka est publié aux éditions Fayard.